Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Pierre.
Salut.
Salut Arnaud.
Salut Pascal, salut Pierre.
Et bienvenue à toutes et tous nos chères auditrices et auditeurs qui êtes là tous les 15 jours en rendez-vous. C'est formidable parce que vous nous écoutez, vous nous appréciez, vous nous partagez. Vous pouvez partager l'épisode dès maintenant si vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner à notre page Instagram, @aucoeurdeshommespodcast. Vous pouvez nous envoyer un petit mail si vous voulez participer et rejoindre la longue liste d'invités hommes que nous avons eu, puisque c'est ça le principe. On est trois hommes et on reçoit un quatrième homme et puis on se raconte, quoi. Tout simplement. Ça va, Jean-Luc?
Ça va.
Ça fait plaisir de te voir
avec vous.
Salut Jean-Luc. Ben oui, je suis ravi de te recevoir aussi.
Merci, on s'est pas vu depuis très longtemps.
On s'est pas vu depuis très très longtemps. Et Arnaud, de quoi on va parler avec Jean-Luc aujourd'hui ?
Du prix de la liberté.
Le prix de la liberté. Putain, on dirait le film de... Comment il s'appelait ? C'était... tu sais ce film-là ? Avec Gérard Lanvin, je crois, qui a été remaké.
Le prix du danger.
Le prix du danger.
Ça doit être un film d'Yves Boisset. Si
Yves Boisset, c'est ça. Ouais, mais là, on parle des débuts des années. Tu connais pas ce film ?
Non.
Running Man.
C'est 80. C'était facile avec l'alcool aussi. Hein.
Là, c'est un film intéressant. Enfin, c'est une parenthèse, film intéressant, parce que c'était, ça racontait en fait la télé-réalité avant
tout
l'heure.
À fait. Exactement.
Voilà, c'était un jeu télé où il fallait retrouver quelqu'un pour le tuer.
Ouais.
Voilà.
Ah oui. Donc, il fallait survivre.
Très avant-gardiste.
Ouais, ouais, c'était très très chouette.
Bon, et donc, juste là, de l'heure de vérité.
Autre chose. La musique dans la tête.
Et ton film à toi, du coup, c'est de retrouver quelqu'un pour faire quoi ?
De retrouver quelqu'un pour ça c'est une bonne question, hein. J'ai pas réfléchi encore. Mais là, avec vous, je retrouve plein de gens que je n'ai pas vu depuis des années, donc.
Oui, pour la petite histoire, effectivement, j'ai aussi eu l'occasion de la chance de travailler avec Jean-Luc. J'avais dit dans le premier épisode que j'ai fait quelques années dans la presse, et bah effectivement, c'est Jean-Luc, c'est grâce à Jean-Luc que j'ai travaillé dans la presse et que donc sûrement je suis là aujourd'hui.
Et bien écoute,
et d'ailleurs, c'est
grosse émotion.
C'est peut-être le métier que je faisais et qu'on faisait qui fait que je me suis attaché au prix de ma liberté.
Ouais.
Y a des fois, il y a des chemins professionnels qu'on choisit qui sont très compliqués à partager avec quelqu'un, même avec les femmes, même si on aime les femmes, hein, ce qui était mon cas. Mais voilà, donc ça fait partie du package.
Non, mais c'est vrai que la liberté, on a tendance à croire que c'est gratuit, mais pas du tout. Il y a un prix.
Non, il y a un prix.
Il y a un prix.
D'abord, le prix, c'est vivre seul, c'est la hantise de beaucoup de gens. C'est la peur de l'ennui, la peur de ne pas être aimé. Si on considère que la liberté, c'est le fait de vivre seul. Enfin, en tout cas, ma définition à moi, de ma liberté, c'est de ne pas partager mon chez moi, ma maison, avec quelqu'un. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les gens ne viennent pas chez moi. Mais
tu vis seul.
Ouais. Je vis seul, voilà.
Donc, ça veut dire qu'on part du postulat que déjà, si tu vis en couple, tu as sacrifié un peu de ta liberté.
Oui, alors ça, c'est aussi le fruit de l'expérience, c'est-à-dire les tentatives, les expériences de jeunes adultes qui consistaient à vivre sous le même toit, je les ai très très mal vécues.
Ah ouais.
C'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer l'autre, simplement
j'ai trouvé ça envahissant peut-être.
Alors envahissant et en même temps c'est pas tellement le fait que la présence de l'autre qui est envahissante, c'est quand l'autre va se coucher, il faut aller se coucher, quand l'autre a décidé qu'il fallait manger maintenant, il faut manger maintenant, quand l'autre a décidé qu'il fallait éteindre la télé, bah il faut éteindre la télé. Et en fait c'est toutes ces petites choses du quotidien que j'ai ressenti, mais très tôt. J'avais 22, 23 ans, et je me suis dit, je n'arriverai jamais à me faire à ça. Alors, ça vient peut-être de la personne avec qui je partage ma vie. Ben non, en fait, ça a été la même chose sur les histoires suivantes, jusqu'au jour où je me suis dit, ben c'est peut-être pas mes compagnes qui posent problème, c'est peut-être juste moi qui ne suis pas fait pour ce schéma-là. Voilà. Et c'est vrai que je vis, aujourd'hui j'ai 60 ans, je vis toujours seul, je suis très content, et c'est terrible parce que souvent on me dit mais oh, c'est triste, non, c'est dur, et si ben non, au contraire, c'est un choix.
Tu m'étonnes.
C'est un choix. Je vous entends tous parler de vos galères, de machin, de trucs. Ben non, c'est un choix. Voilà. Et faut en accepter évidemment les côtés négatifs.
Ah oui, bien sûr.
Ouais, c'est partie du jeu. Hein.
Ah bon, c'est quoi les côtés négatifs?
Déjà, t'as pas une connasse qui te fait chier, hein.
Ça, c'est le côté positif.
L'avantage, c'est que tu manges à l'heure que tu veux. L'inconvénient, c'est que tu manges des plats picards.
Alors, je mange à l'heure que je veux, oui. Moi, perso, je mange à l'heure que je veux, mais surtout, je mange à l'endroit que je veux. C'est-à-dire sur mon canapé, affalé, rarement sur une table. Donc ça aussi, c'est un choix. C'est-à-dire que je suis pas obligé de me mettre à table, etc. Je mange là où je veux. Si j'ai envie de manger... dans les chiottes, j'irai manger dans les chiottes. Je fais pas, hein, je vous rassure. Hein. Mais je veux dire, la liberté pour moi, c'est plein de petites choses comme ça qui mises bout à bout font que c'est pas toujours facile, quoi.
Et quel est le prix de cette liberté? Ça te coûte quoi d'être seul, du coup? Est-ce que tu...
Alors déjà,
tu
ça coûte cher, hein, parce que quand on vit seul, tout est plus cher. On paye plus d'impôts.
Ah oui.
Quand on vit seul, on ne partage pas certaines... On partage pas, je dis n'importe quoi, je roule beaucoup en voiture, je partage pas l'essence. C'est pour moi. Je partage pas mon assurance automobile. Donc là, je parle vraiment concret, finance. Quand on est seul, la vie coûte beaucoup plus cher, surtout quand on est à Paris. Le couple, c'est une entité économique, hein. C'est une cagnotte dans laquelle on met de l'argent, cet argent est partagé pour la nourriture, pour l'essence de la voiture, pour acheter la voiture. Enfin bref, quand on est seul, on se débrouille tout seul.
On fera un podcast aux poches des hommes bientôt.
Ouais, non, mais c'est vrai. Il faut dire les choses.
Le loyer,
quand
le
on
logement
vit à
aussi,
Paris,
j'imagine.
Bien sûr. Quand on vit à Paris, en fait, c'est un luxe en réalité. J'ai l'air faut oublier que beaucoup de gens aujourd'hui vivent en colocation. Ils vivent en colocation parce que tout est cher. Donc quand on est seul, c'est qu'on se donne les moyens, donc on se prive sur autre chose de pouvoir assumer ça. Ça coûte cher. Ouais, c'est un luxe en fait.
Ça a toujours été un choix, cette liberté justement, quoi. C'est toujours été considéré comme une liberté, le fait de vivre seul, ou alors est-ce qu'à un moment donné justement c'était pesant?
Non,
le prix était supérieur à la liberté.
Alors c'est pas un choix, c'est plus ça s'est imposé comme une... Je sais pas, j'ai pas le choix en fait. Je ressens ma vie comme ça. Je l'ai pas choisi. Si on me donnait le choix, peut-être que je me dirais, ça doit être plus sympa de vivre avec quelqu'un, de partager avec une fille. Enfin, dans mon cas, je suis hétérosexuel, donc avec une fille. Mais au fond, c'est pas le choix en fait. Je fais juste, j'essaye de faire là où je me sens le mieux ou le moins mal. Voilà, ou le moins mal. Car j'ai vraiment des souvenirs de vie à deux où je souffrais. Vraiment, je souffrais. Je souffrais de me dire, je me sens pas bien. Mais encore une fois, les sentiments que j'avais pour l'autre n'entraient pas en cause. Simplement, ce besoin d'être seul, ce besoin de ne pas être regardé par moment, de ne pas avoir à regarder l'autre. Voilà.
Et à quel moment tu as assumé ce choix, de faire ce choix et de te dire, voilà, je vais être seul?
Bon, je l'ai fait très tôt. Très très tôt, Arnaud. On a travaillé ensemble il y a très longtemps. Hein. On a commencé il y a 30 ans à peu près. À l'époque, je vivais seul. J'ai tenté une expérience de cohabitation, de colocation avec un copain qui était attaché de presse dans une maison de disques, avec qui je m'entendais bien. Ça a duré un an et demi. Je me suis rendu compte que là non plus, c'était pas c'est pas génial, quoi. En fait. Le pod, il était... On s'entendait très très bien quand on partait en voyage de presse, qu'on travaillait. Mais après, voir tous les soirs à la maison, ou même pour lui, me voir tous les soirs à la maison, je suis pas sûr que c'était une partie de plaisir. Ça a duré un an et demi. Et puis, au moment, j'ai dit non, je repars. Je suis pris un petit studio et j'étais très très bien dans mon petit studio.
La liberté, c'est de pouvoir ne pas s'organiser? C'est-à-dire de
Exactement.
Laisser les choses venir?
Mais absolument, ne pas s'organiser, ne pas faire le ménage si j'ai pas envie de faire le ménage ou parce que j'ai la flemme de le faire, ne pas ranger ma chambre, c'est exactement ça. Personne n'est là pour me dire range ta chambre. Ça résume peut-être la situation. mais alors il faut peut-être y voir aussi des traumatismes de l'enfance, hein, c'est possible. Moi, j'avais une maman qui était sur mon dos tout le temps. Une mère possessive, qui contrôlait tout, qui regardait tout, qui contrôlait de voir, qui regardait si la chambre... Et finalement, je crois que je me demande si j'ai pas passé ma vie à fuir ça. C'est-à-dire qu'une image de femme... Ma mère elle est décédée il y a pas longtemps. C'était une femme extraordinaire que je voilà. Mais elle était très pesante, et je crois que très tôt, sans doute, j'ai cristallisé ça, et je me suis dit, mais les femmes, elles sont peut-être toutes comme ça, quoi. Et dans les expériences que j'ai eues, on n'était pas loin, hein.
Ah oui.
Ah oui, ah oui. Ouais, ouais.
Pas de généralité.
Non, pas de généralité.
Non, mais parce que moi, je suis comme ça. Hein. Je sais que tu, enfin, vous me connaissez, vous deux. La liberté, c'est un truc. Non, non, justement. Non, mais moi, c'est un poil. L'organisation, c'est quelque chose qui me met dans des états d'angoisse et qui ne me permettent pas d'avancer, de réfléchir. Tout se bloque et tout devient l'apocalypse dans ma tête. Donc, ma liberté, c'est justement de me permettre de respirer et d'avancer et de pouvoir justement ne pas avoir peur du regard, de ne pas avoir peur. Alors qu'en fait, on s'en bat les couilles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un poids. Et la liberté me permet de vivre finalement.
Oui, parce que tu as ta liberté de ne pas t'organiser.
Oui.
Et ça ne pèse à personne d'autre que toi.
Voilà, c'est ouais. ça. Je fais chier personne et personne ne me fera chier, quoi.
Oui, alors ça, c'est important ce que tu dis. En fait, en même temps, on n'emmerde personne. Voilà. C'est-à-dire que le bordel qu'on s'impose peut-être chez soi parce qu'on ne range pas, bah, on s'impose à soi. On ne s'impose pas à quelqu'un d'autre. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas égoïste, finalement, c'est plutôt altruiste comme comportement.
C'est pour le bien-être des autres.
Absolument. Il faut se rassurer comme on peut. Mais voilà, alors après, la vraie question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des manques, des moments où on a envie de partager des... Moi, j'ai une relation avec quelqu'un, chacun vit chez soi. Alors, j'ai trouvé ce compromis. C'est pas simple pour l'autre.
Oui, c'est pas forcément le choix de l'autre.
Ce n'est pas le choix de l'autre.
Ça veut dire que
voilà, ce n'est pas le choix de l'autre. Mais après, l'autre a toujours la possibilité de partir et de dire non. En général, c'est ce qui se passe. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Mais ça, oui, mais
pour partir, faut. Être
là. Oui, c'est compliqué pour tout.
Mais alors, là, le prix de ça, c'est que moi, évidemment, je l'accepte complètement. Si un jour elle me dit bon, maintenant, c'est plus possible. Je lui ai dit, elle le sait et je l'accepterai.
Donc t'es prêt à être vraiment peiné et
oui. C'est le prix à payer. Mais je sais qu'entre accepter cette peine, ce manque et me dire bon j'ai pas le choix, bon bah faut qu'on vive ensemble sinon elle s'en va. Je préfère accepter le manque parce que la vie à deux, à un moment, j'y arriverai pas.
C'est marrant, c'est ce que ma mère m'a toujours dit, puis elle est encore avec mon père, elle en souffre. Elle m'a toujours dit, si tu te mets au couple, prends deux appartements en face de l'autre. Tu fermes ta porte à clé, hein, l'autre n'y aura pas. Hein.
Là, c'est pareil, c'est un luxe de riche.
Oui,
vivre chacun dans son appart, c'est un luxe de riche. C'est compliqué. C'est pas simple.
Moi, j'ai toujours vu le moment dans le couple où les deux s'installent ensemble comme vraiment la première pierre tombale de la relation. Quoi.
C'est joli.
Je le vois vraiment comme ça.
Et
il y en a qui me donnent tort et j'en suis très content pour eux. Mais tous ceux qui me donnent raison, je me dis, je le vois. Quoi. Moi, c'est ma vision des choses. Hein,
Voilà, encore une fois, chacun est différent. Moi, j'accepte complètement le discours de ceux qui disent c'est formidable de vivre à deux, etc., etc. Je ne les blâme pas, je ne leur dis pas vous avez tort, vous avez raison si c'est votre truc. Mais si le nôtre, c'est de ne pas vivre de cette manière-là, c'est comme ça, en fait, on n'y peut rien. C'est comme la sexualité. Les gens qui sont homosexuels ou bisexuels, c'est pas un choix, au fond. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. On est différents, heureusement.
Oui, heureusement. Oui.
Heureusement.
Et quand on a choisi cette liberté, on se...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Confronte au fait de ne pas être avec quelqu'un, enfin que c'est plus compliqué en tout cas, mais il y a les amis quand même, on peut compter dessus, ou est-ce que eux aussi, il y a un moment où ils sont lassés, où il y a quelque chose qui va pas?
Ben non, le pote célibataire, c'est celui qu'on invite le plus facilement.
C'est le plus sympa et le plus fun, hein, d'ailleurs.
C'est celui qui est le moins galère pour fixer une date, parce qu'il est beaucoup plus libre. C'est qu'une bouche à nourrir. Franchement, moi, on m'invite tout le temps. Donc,
les pères de famille n'ont aucune chance, quoi.
Alors, c'est plus compliqué. Alors, bon, moi, j'ai des enfants, hein, ils sont grands, donc c'est plus un problème. J'ai deux fils qui sont adultes. Mais oui, quand il y a les enfants, ça complique les choses, pas simple. Donc, non, le célib qui n'a pas d'enfants à charge, c'est l'idéal comme pote. C'est le meilleur pote.
Attention aux femmes. Hein.
C'est souvent les meilleurs amants.
Bah oui, c'est ce que je voulais dire.
On a le temps de s'organiser. Parce qu'il y a aussi tout cet aspect-là, on n'en a pas parlé encore. Hein. Mais ça fait partie du jeu, il y a aussi ça. Pendant longtemps, moi maintenant, mais moi pendant longtemps, je voulais aussi garder cette espèce de libre arbitre de liberté, quoi. Je me disais dans ma tête, c'est pas possible, ça peut pas être la dernière, là. Il y en a trop.
Et tu appelais déjà ça le polyamour ou pas?
Pas le polyamour. Non, ouais, alors le polyamour, c'est particulier, parce que ça se partage à plusieurs, si j'ai bien. Enfin, je suis pas spécialiste.
Tu devrais
écouter
notre épisode avec Jean qui nous en parle très très bien.
Mais polyamour, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui se connectent, qui s'identifient. Moi, c'était pas ça. C'était que j'avais toujours. Toujours l'œil qui traînait. Il y avait toujours une qui était plus charmante que l'autre et qui me perturbait et qui faisait que. Et c'était compliqué. C'était. Vous connaissez Arnaud,
c'est compliqué. Parce que j'ai plein de visages qui défilent devant ce monsieur là tout de suite.
On travaillait à l'époque dans une énorme société, je ne sais pas si on peut la citer, qui était le groupe Hachette, hein, Philippe Aki, qui était une énorme boîte de presse, avec tous les journaux, les Paris Match, les JDD, enfin bref. Il y avait des filles partout. Partout, à tous les étages. J'avais mon bureau ouvert, je voyais passer. C'était incroyable. Donc, c'était une autre époque. Hein. Il y a 20 ans, les rapports hommes-femmes n'étaient pas du tout. Ils étaient corrects, mais ils n'étaient pas codifiés comme aujourd'hui où c'est beaucoup plus compliqué parce que tu sais plus ce qu'il faut dire, pas dire, faire. Est-ce que tu as le droit de dire à une fille qu'elle a un joli
décolleté,
décolleté, même sans aller jusqu'au décolleté, simplement lui dire t'as un joli t-shirt ou je sais pas quoi.
On va couper sur le montage.
Aujourd'hui, tout est compliqué.
Ça va trop loin.
À l'époque, c'était pas compliqué comme ça et puis les rapports étaient beaucoup plus simples.
Donc quand on est libre et qu'on est célibataire, en fait, on est juste chaud patate, quoi. pas pour moi, évidemment.
À l'époque, on avait 30 ans, célibataire, le choix de se dire, voilà. En plus, on faisait un boulot quand même qui nous permettait de rencontrer plein de gens. On voyageait beaucoup.
Ben oui.
On avait ce côté un peu... pour l'agent de famille, on avait un petit côté aventurier quand même. On passait notre temps, on prenait l'avion, on rencontrait des gens connus, etc. Parce qu'on les interviewait. Donc, je pense qu'il y avait un petit côté... c'était plus séduisant peut-être qu'un employé de banque. C'est plus rigolo, plus rock'n'roll, mais moins sécurisant pour une fille, je pense.
C'est
beaucoup moins sécurisant.
Moins rassurant, c'est sûr.
Ça, c'est sûr.
On connaît tous ces métiers. Mais si vous avez travaillé dedans aussi. Hein. Quand je dis travailler dedans, je parle de métier encore une fois.
Oui.
Non, mais bien sûr, oui, c'était. Je visualise tout à fait. Comment ça se fait que la liberté est un prix comme ça et devrait être gratuite, non?
La liberté devrait être gratuite, mais d'abord, c'est faut savoir ce qu'on appelle la liberté, en fait. Moi, ma liberté, c'est pas celle de peut-être d'Arnaud ou d'autres gens. Donc, je pense que quoi qu'on vive, on a forcément pris à payer. On peut pas tout avoir. Ouais. Ce n'est pas possible.
Oui, parce que je pense que ce que tu rejettes, entre guillemets, cette notion de couple, je pense qu'il y en a pour qui ce couple dans lequel ils vivent, c'est leur liberté à eux. Et ils ont une liberté au sein de ce couple-là. Et c'est ça qu'ils appellent la liberté de pouvoir justement se décharger de cet aspect. Parce qu'une fois qu'ils ont trouvé quelqu'un, ils sont contents de l'avoir. Et c'est une autre vision des choses, quoi.
Tant que le couple fonctionne, oui.
Oui,
et après, il y a le moment où la cellule va commencer à vriller. Enfin, heureusement, ça n'arrive pas à tout le monde. Mais tant que le couple fonctionne, oui, clairement. Y a des gens qui trouvent leur liberté dans le regard de l'autre, le fait de faire les choses ensemble. Il y a les couples qui font tout ensemble.
Il y a les couples qui font tout ensemble. Et il y a aussi une je pense, sur du matériel, par exemple. Tu vois, si tu dis vivre à Paris, c'est cher. Et effectivement, si tu es en couple, tu peux envisager d'avoir des choses plus grandes, d'avoir liberté de t'étendre.
Absolument.
Et d'avoir une plus grande surface qui est partagée, certes. Mais
c'est pour ça qu'il faut s'organiser autrement quand on s'assume tout seul. Alors, moi, alors ça, c'est une vraie question. À un moment donné, faut vivre, on paye un loyer, on vit dans des tout petits trucs. Moi, jusqu'à 36 ans, je vivais en studio. J'habitais à Antony, en banlieue, où j'ai grandi. Et puis, à un moment, je me suis dit, stop, faut que j'achète quelque chose. Il faut donc faire un prêt, un machin, etc. Je me suis dit, sinon, à 60 ans, je serai toujours au même endroit et je ne pourrai jamais. Donc, effectivement, après, il faut penser à ça. Ouais. Il faut, se projeter aussi matériellement, à un moment. Se dire, c'est bien joli de vivre une vie de célibataire, mais il y a un moment, après 50 balais, c'est plus compliqué, et puis c'est moins fun, et puis on se réveille, on se dit, j'habite à Paris, j'ai 2000 balles de loyer, et peut-être je serai peut-être au chômage dans 2 ans, enfin voilà. Mm-hmm. Et on est obligé. Donc moi, effectivement, j'ai quand même essayé de gérer ça. C'est-à-dire de faire attention à un moment, de me mettre relativement à l'abri, pour ne pas vivre ce que vivent certains copains, des amis qui ont aujourd'hui plus de 50 ans et qui ne peuvent absolument plus rien acheter à Paris parce que c'est pas possible et qui travaillent pour payer un loyer, quoi. C'est terrible. Mmh. C'est terrible.
La liberté, excuse-moi, je te coupe.
Oui.
Mais du coup, la liberté, c'est quand même aussi un truc qui se vit surtout jeune, parce que en fait, je suis en train de penser à ça quand on vieillit, qu'on doit partir en maison de retraite. Mmh. Bon, c'est un peu la discussion horrible. Mais du coup, on est seul, c'est pas nos amis qui vont nous le payer, qui va s'occuper de ça? Il y a aussi ces questions-là. Bon, je me suis jamais posé cette question, ça m'est venu là maintenant. Ouais. Je suis désolé.
T'as raison, mais tu peux vivre 30 ans, 40 ans avec quelqu'un et la personne décède et t'es tout seul.
Oui, ça.
Être retrouvé à 60, enfin il y a beaucoup de gens qui sont veufs tout seuls à 60 ans. Là, ils sont
divorcés.
Ou divorcé, ou madame s'en va, ou monsieur s'en va, ça existe aussi même dans ces âges-là, et tout d'un coup, boum, tu te retrouves tout seul. Et là, tu es obligé de réapprendre à vivre autrement. Mmh. Et je pense que c'est pas simple, effectivement.
Bon, après, tu peux économiser aussi pour payer toute ta vie, mais c'est un luxe. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est que c'est un luxe.
Ouais, c'est compliqué, c'est que dans les divorces, après, il y a souvent des ventes t'as des biens en commun, des ventes d'appartements, etc. Ouais. Et c'est compliqué. Moi, j'ai vécu avec mon frère. Ils sont obligés de tout vendre, quoi, pour, voilà. Donc, sans rentrer, l'idée, moi, je vais pas là-dedans, mais c'est effectivement, je dirais que apprendre à vivre seul, c'est peut-être aussi, se prémunir d'un accident de la vie. C'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver à un moment donné, effectivement, seul. Parce que l'autre s'en va ou parce que l'autre meurt et que c'est pas simple, ça doit pas être simple.
À quel moment tu l'annonces, ce projet de vie, quand tu rencontres une nana, et aussi comment tu le vends?
Bonne question.
Comment tu le marketes, puisqu'il faut trouver un joli paquet autour quand même.
Alors, c'est pas le genre de choses dont on parle au début. Quand tu rencontres quelqu'un, tu parles pas de tes projets d'avenir avec la personne. Ça se fait empiriquement, quoi. Ça se ressent de toute façon. L'autre ressent qui tu es très vite, comment tu vis. À un moment, tu vas l'expliquer. Ça fait 25 ans que je vis tout seul. L'autre doit se dire, ah oui. Mais par choix, oui, par choix. Voilà, ça se glisse comme ça dans une conversation. Donc, moi, la personne avec qui je suis, je lui dis ça très vite, mais ça l'a pas. À l'époque, elle n'y a pas prêté plus attention que ça. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on va changer l'autre et que là, cette fois, ça sera la bonne. Mmh. Mais sauf que, avec le temps, on s'en rend vite compte, quoi.
Mais t'as jamais dit, on en parlera plus tard, etc.
Non, pas du tout. Ah oui. Moi, je n'ai jamais caché comment je vivais. Oui, bien sûr. Si tu commences à vendre du rêve, un truc que tu n'es pas capable de faire, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Mais c'est dur. Je trouve que c'est dur de vivre à deux. Et alors, je trouve que le plus difficile, dans une relation de couple, enfin, quand on vit avec quelqu'un, c'est... quand on passe justement le stade de la passion, où là, effectivement, tu imagines tout quand t'es passionné. Tu vas être avec l'autre tout le temps, etc. Oui. Mais tu sais qu'à un moment donné, ça va s'éteindre. Et donc, faut le transformer en autre chose. Et c'est ce autre chose qui est compliqué.
Ouais,
c'est ce autre chose qui est compliqué.
Ce autre chose, c'est l'ennui, quoi.
C'est pas forcément l'ennui, mais c'est d'accepter que, comme disent les Américains, on va former une équipe et on va faire plein de choses. Ouais, mais moi, pour faire plein de choses avec quelqu'un, j'ai besoin de l'aimer passionnément. Et si la passion, elle est plus là, j'ai du mal.
Est-ce que la passion, elle dure plus longtemps quand t'es justement dans un couple à distance?
Alors oui, c'est, je pense, une manière de la faire durer plus longtemps. Je dis pas qu'elle dure beaucoup, beaucoup plus longtemps, mais je pense qu'elle dure plus longtemps puisque tu te crées un manque. Tu vois pas l'autre tout le temps, tu te lasses moins vite de l'autre, tu vois moins vite ses défauts, tu ne profites pas de ses petits défauts à la maison au quotidien qui vont te mettre la puce à l'oreille que,
et puis
voilà, tu vois.
Et puis moi, il y a aussi un élément, c'est que t'as des choses nouvelles à raconter. compé, puisque tu ne les vis pas toutes les mêmes choses avec
exactement,
la même personne.
Absolument.
Tu vois, donc
c'est ça.
Je trouve ça important, moi, de.
Donc je
plutôt dans ton équipe, hein, donc je trouve ça important de vivre des choses ailleurs et de pouvoir les rapporter dans
c'est
une
ça.
Relation.
Ça permet de réalimenter. Et clairement, ça dure beaucoup. Pour être clair, moi, la personne avec qui je suis, ça fait 11 ans. Je pense que si on. Depuis 10 ans, on était ensemble, on ne serait plus ensemble depuis très très longtemps. On est encore ensemble parce qu'on ne vit pas ensemble.
Mais il n'y a pas une dichotomie où parfois on se dit d'un côté, j'aime cette liberté, et c'est une chose que je peux entendre aussi. Mm-hmm. Et de l'autre côté, où tu te dis, en fait, j'aimerais bien être en couple aussi. Ou j'aimerais bien peut-être retenter, parce que peut-être que ça a aussi du bon.
Pas être en couple, vivre en couple, tu veux
vivre
dire.
En couple, voilà, pardon.
Ouais, tu peux être en couple sans vivre en couple.
Voilà, parce que...
bah, je suis en couple sans vivre en couple.
Oui, mais vivre en couple, il n'y a pas un moment où on peut se dire, en fait, ça a aussi du cool, ça a aussi un truc cool, parce que si tu retrouves...
Bah, c'est en même temps ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que je n'arrive pas à le concevoir sur le long terme, ça. Oui, ça peut être
mais
cool pendant les vacances.
T'as pas des moments où tu dis...
Non, mais c'est vrai.
C'est cool pour un week-end.
Les vacances. Non.
Je suis d'accord.
J'espère que les gens... Enfin, moi, quand je dis ça, je suis juste honnête. Hein, c'est pas du
mais
tout cynique de ma part. Pendant les vacances, voilà. Mais après, effectivement, besoin de retrouver sa distance. Et cette distance permet, je pense, quand même, de faire durer cette petite part de mystère qui fait qu'on a quand même... encore envie d'être, qu'on est encore intrigué par l'autre.
Et puis comme tu l'as déjà dit, c'est chacun différent, chacun a son prisme,
voilà.
Chacun a son,
exactement.
Son émotion, quoi.
Absolument, absolument. Il y a des gens, je pense, qui sont, on est des êtres sociaux, on est comme beaucoup d'animaux, on est des êtres sociaux, on a besoin de vivre avec les autres et chez beaucoup de gens, il y a ce besoin effectivement de partager la vie avec quelqu'un d'autre. Et puis il y a la pression sociale qui fait qu'on grandit avec cette image-là aussi, qui nous met dans la tête que ça doit être comme ça et pas autrement. C'est intéressant de voir comment les enfants voient ces choses-là. Moi, enfant, je me souviens, je regardais mes parents qui ont vécu toute leur vie ensemble. Je me disais, mais j'y arriverai pas, moi. Déjà, enfant, je me disais, c'est curieux, ce modèle de papa-maman, je le sentais pas. Je pensais que c'était juste une lubie. En fait, non. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas tous faits pour ce modèle. On est tous différents. On n'est pas formatés pour vivre... Il y a des espèces animales où, instinctivement, ils sont faits pour. Ouais. Voilà, on sait que chez quelle marmotte, le couple se forme et passe sa vie ensemble. Ils ne se posent pas la question, c'est instinctif, c'est génétique, c'est inscrit dans leurs gènes. Nous, non. Ce n'est pas inscrit dans nos gènes. C'est inscrit dans nos cultures, dans notre vécu. Mais ce n'est pas inscrit dans nos gènes qu'un homme doit vivre avec une femme toute sa vie. Non.
Tu disais être papa.
Oui.
Comment ça s'est passé cette période de père? Tu étais aussi.
Alors,
comment ça s'est.
Bah alors, moi, j'ai été un père forcément séparé. Hein. Alors, en plus.
Ah, donc tu étais un père séparé. Donc
bah,
tu avais.
Oui, c'est-à-dire que j'ai pas eu mes deux enfants avec la même femme. L'aîné, donc Jérémy, qui a 33 ans. J'ai connu sa mère avant, j'étais étudiant, etc. On est restés 7 ans ensemble. Donc, c'est la première expérience où j'ai vécu en cohabitation, où je me suis dit, je n'y arriverai pas. Et en fait, mon fils est né en 90 et on s'est séparés assez rapidement parce que malheureusement j'ai eu un coup de foudre. Mais alors c'est terrible ça. J'ai un enfant, il a 8 mois, bah, je fais une rencontre, coup de foudre, irrésistible. J'ai pas pu résister. Donc je l'ai quitté. Compliqué. Et finalement, les choses se sont arrangées puisqu'elle-même a découvert dans les 2-3 ans qui suivaient qu'elle était peut-être finalement plus lesbienne qu'hétérosexuelle. Plus, voilà.
D'accord.
Et donc, elle m'en a parlé et en fait, on s'est toujours très bien entendu parce que moi, je l'ai accepté, ça ne me posait aucun problème. Donc, mon fils a vécu entre sa maman et sa compagne, ou ses compagnes, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et puis moi, qui vivais seul, et puis je l'avais le week-end, on partait en vacances, etc. Ça s'est très très bien passé, en fait.
D'accord, donc t'as pas eu à vivre une paternité dans un cadre de couple qui ne te convenait pas, quoi.
Peu, en fait.
D'accord.
C'est arrivé quand il était vraiment tout petit, la première année, et assez peu. Mais finalement, étant donné qu'on s'entendait bien, on faisait plein de choses ensemble, passait des week-ends ensemble, il avait quand même une image de papa et maman.
Ouais, pour les vacances, quoi.
Pas pour les vacances justement, Arnaud. Les week-ends où je partais, puisqu'elle est de Chamonix, on partait au chalet ensemble, on partait en vacances ensemble. Donc il y avait vraiment il a pas vu un père et une mère qui se déchiraient. Il avait une maman donc qui vivait avec une femme, donc il a été très vite, il a très vite compris ce qu'était homosexualité, que c'était voilà. Donc autant vous dire qu'il est quand même voilà, c'est un garçon qui est très ouvert. Et moi par contre, j'ai fait attention de ne pas lui donner l'image d'un père qui changeait de nana tous les 4 matins. Voilà. Je voulais pas à la maison qu'il voit, il en a connu 2, mais il en a pas connu 25. Voilà. Ça, je voulais pas qu'il ait une image d'un père qui passe son temps à ramener des filles chez lui.
Donc, tu t'es quand même un petit peu limité dans ta liberté pour quand même protéger ton fils.
Ouais, mais enfin, comme je l'avais pas tous les week-ends, c'était pas.
Je veux dire, il y avait quand même des zones de liberté.
J'organisais mes emplois du temps du week-end. Voilà. Il y avait pas de. Mais il n'a connu que celles qui ont compté.
Oui, oui.
Les autres, il les a pas connues. Voilà.
En parlant de ça, comment tu fais, ou comment est-ce que quelqu'un qui vivrait dans cette liberté-là, justement, de vivre pas avec l'autre personne, comment tu fais pour rassurer l'autre sur le fait que t'as pas une double vie ? Parce que ça, c'est un truc qui doit.
Ah ouais, mais ça, c'est la confiance, Arnaud. Hein. Ça, c'est le problème de tous les couples. C'est un problème de gens même qui vivent ensemble. Qu'est-ce qui prouve que Gilbert et Monique, Gilbert ne trompe pas Monique
Sauf que Gilbert, c'est de 5 à 7 et toi, c'est une semaine sur 2, tu vois.
Ben, 5... Alors, est-ce que c'est mieux de tromper sa femme de 5 à 7
Non, je veux dire, je suis pas sûr. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que du coup, certaines personnes peuvent peut-être imaginer que.
Bah, le couple, c'est un meilleur système de gardiennage, c'est clair. Hein. C'est vraiment.
Oui. Je sais pas justement. Je suis pas sûr. J'ai vu tellement de couples où l'un ou l'autre se trompait que. Enfin, c'est toujours gérable, hein, ça. Après, c'est compliqué maintenant avec les réseaux sociaux, les téléphones, les machins. C'est beaucoup plus compliqué qu'à une époque.
Cette liberté, justement.
C'est clair. Justement, on prenait ça avec tout ça.
Mais oui, les couples se pistent. Maintenant, on se piste en fait. Comment échapper à l'autre avec le téléphone, le machin, c'est impossible. Alors que il y a 30 ans,
c'était le bon vieux temps.
Il y avait le téléphone, il y avait le répondeur sur le téléphone pour laisser un message. Il y avait aucun moyen de localiser ou de géolocaliser l'autre. Ouais, aujourd'hui,
il n'y avait pas un like douteux sur Instagram. C'est qui ça?
Exactement. Ouais.
Ah non, bah oui.
Moi, ma compagne. Pendant un moment, elle a arrêté maintenant, mais dès qu'elle pouvait, elle regardait ce qu'il y avait dans mon téléphone. Voilà, typique. Elle, alors qu'on vit pas ensemble, bah, dès qu'elle le pouvait, elle chopait mon téléphone et elle regardait ce qu'il y avait dedans.
Elle a plus de temps, t'es plus avec elle.
Non, je parle de Marie, avec qui je suis.
Ce que je veux dire, comme elle n'est pas avec toi tout le temps, elle a plus de temps pour te stalker.
Oui, c'est vrai. voilà, ça, c'est des trucs. Alors, j'imagine, dans les couples, c'est la même chose. On peut pas échapper. En fait, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué dans les couples aujourd'hui pour mentir et faire autre chose. C'est... Je pense.
En même temps, à quoi bon être en couple si c'est pour faire ça, hein? Autant être libre, seul, peinard, quoi.
Ah ben, c'est ce que je pense.
C'est
ce que je pense.
C'est ce que tu fais. Ben, merci beaucoup d'être venu partager ça avec
nous. Merci à vous, c'était très sympa.
Soyez libre.
C'est un plaisir.
C'est bon. Et voilà, ben merci pour cet épisode, Pierre et Arnaud.
Merci à vous.
Et merci à vous toutes et tous qui nous avez écoutés. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à des gens que vous sentez un peu... tenté par l'aventure en solo ou à des couples où vous dites mais non mais ce serait mieux si vous continuez votre couple chacun chez soi et voilà, n'hésitez pas à nous partager, à nous contacter. On est disponible sur Instagram @aucoeurdeshommespodcast ou un petit mail à Gmail aucoeurdeshommespodcast@gmail.com. allez, bonne fin d'écoute, bonne fin de journée et à dans 15 jours. Ciao.
Ciao.
Merci.